Mathilde, dans votre billet culturel, vous évoquez les conclusions du grand débat sur la culture.
Oui, lorsque l'on parle d'accès à la culture, toute une série de métaphores apparaissent. Les freins symboliques, sociaux, financiers, les publics empêchés, mais aussi le fameux moteur de l'émancipation. Des images qui ont tout en commun de puiser dans l'imaginaire de la mobilité. Bien qu'absente des thématiques majeures retenues pour le grand débat national, ainsi que des revendications de la France dite des ronds-points, la culture révèle une crise de la concentration qui n'a rien de métaphorique. Une disparité spatiale à prendre au pied de la lettre. Comment accéder à la culture quand on en est concrètement éloigné? La synthèse du grand débat de la culture lancée par la Fondation du Patrimoine et Beaux-Arts Magazine vient d'être publiée. Elle est en ligne et elle a également été remise, comme annoncé, au ministre de la Culture, Franck Riester. L'initiative a suscité 3769 contributions et 19 414 votes exactement. Les propositions retenues vont d'un service civique du patrimoine pour la restauration des sites en péril à l'instauration de pauses repas culturels pour les salariés, avec concerts, lectures, siestes musicales ou ateliers céramiques, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est frappant...
Ateliers céramiques.
Pourquoi pas, oui.
Mais non, mais
parmi les
pas,
activités culturelles. Ce qu'il faut retenir de cette consultation et ce qui est frappant, c'est qu'elle met en lumière une urgence première à réduire les inégalités territoriales de la culture. Mettre en place des transports en commun reliant les zones éloignées aux équipements culturels, développer des micro-musées itinérants, pousser les institutions culturelles à multiplier les opérations hors les murs, inciter les théâtres des villes à déplacer plus souvent leurs spectacles dans les campagnes, voire si c'est nécessaire dans un dispositif réduit, déployer des bibliobus, intégrer le coût des déplacements dans les billetteries, mettre en place un réseau de navettes et de covoiturage, proposer des prestations complètes, visite d'une exposition ou place de spectacle avec les transports, le tout à des tarifs avantageux. La liste pourrait encore continuer. Elle rappelle au loin le plan La Culture près de chez vous, souvenez-vous, de l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui, cela dit, partait d'un bon diagnostic, mais on est sans nouvelles de ce plan La Culture près de chez vous. Depuis son départ, ce ne sont pas
tant... Elle publie un livre bientôt.
Oui. Ce ne sont pas tant les propositions qui comptent ici, mais le cap qui ne saurait être abandonné si on veut cesser d'accroître la fameuse fracture culturelle. Et ce ressentiment qui rend Paris responsable de tout, comme le formulait le président Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Aujourd'hui, en Ile-de-France, le ministère de la Culture dépense 139 euros par habitant et par an, contre seulement 15 euros sur le reste du territoire, soit près de 10 fois moins. Comment ne pas entretenir dans ces conditions la fracture culturelle? Lorsque l'on songe au Pass Culture, censé accompagner l'impulsion culturelle des jeunes citoyens de 18 ans, on voit à quel point l'État ne répond pas à ces enjeux. On a beau géolocaliser l'offre culturelle avec une application, ça ne fera pas apparaître la culture là où il n'y en a pas. À condition même que l'on puisse se connecter à l'application. Rappelons que le lancement de la 5G se prépare pour 2020 dans l'Hexagone, mais selon une étude récente, 61% des Français seulement ont accès à la 4G. Favoriser l'accès non plus seulement métaphorique, mais concret à la culture, c'est une priorité qui ne peut plus être refusée.
On peut capter France Culture à peu près partout sur le territoire, Mathilde Serrel.
Mais oui, ça, grâce aux ondes hertziennes, entre autres. Mais
grâce, quand même un problème grâce aux ondes hertziennes que nous aimons et qui sont un élément de notre patrimoine.